Radio Grand Ciel présente B-Jazz, une émission réalisée grâce à la participation technique de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. En septembre 2014, nous vous avons présenté le thème de l'année, les génies du jazz. Et ainsi, vous pouvez retrouver Patrick Durand, un médecin qui s'est intéressé au jazz et qui explique le cheminement de compréhension du jazz par notre connaissance actuelle de la neurobiologie. Patrick Durand, bonjour.
Christiane Blain, bonjour.
Merci d'être venu avec votre piano. Gilles Secase a lui été très tôt marqué par la musique du guitariste Henri Crolla. Il a pris la guitare qu'il pratique dans des formations de jazz. Vous pouvez le retrouver à Réveillon, entre autres. Il est également journaliste. Gilles Secase, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Merci d'être venu avec votre guitare. Notre huitième émission donc sera consacrée au génie du jazz vocal. Et pour cela, deux grandes chanteuses, je dirais deux chanteuses extraordinaires de jazz, Billie Holiday et Ella Fitzgerald. Alors, je dirais que Ella Fitzgerald est considérée peut-être comme la voix la plus influente de l'histoire du jazz, qui a réussi à transcender plusieurs générations et genres musicaux grâce, je dirais, à une personnalité hors du commun, n'est-ce pas? En fait, contrairement à l'idée reçue chez certains néophytes, le jazz n'est pas qu'instrumental, car il allie aussi une musicalité vocale qui se substitue aux instruments, comme en fait cet immense artiste qu'est Ella Fitzgerald. Nous vous proposons donc un petit tour d'horizon des capacités vocales de cette grande dame de la musique qui a toujours travaillé à la pointe de ses pouvoirs vocaux dans tous les registres musicaux. Et on peut dire que si elle est toujours la reine incontestée du registre jazz avec ses 3 octaves, il faut rappeler que son répertoire musical s'étendait aussi au blues, à la bossa nova et je dirais à bien d'autres genres musicaux.
Écoutons tout de suite la grande Ella.
To be so near and yet so far from me, and here am I on a night in June, reaching for the moon and you. I wonder my song of love is incomplete.
Un très bel exemple, Patrick, de l'étendue du registre de la voix de Ella Fitzgerald. C'est un thème qui, d'Irving Berlin de 1942, s'appelle Reaching for the Moon. Et elle met en application son sens de l'anticipation, sa connaissance de l'harmonie. Elle avait une voix d'une pureté extraordinaire à cette époque-là. Ce qui est amusant, c'est d'écouter ce qu'était Ella Fitzgerald lorsqu'elle a débuté. Elle avait à peine
16 ans.
Et son premier enregistrement, qui date, elle avait 20 ans avec l'orchestre de Chick Webb. C'est pas tout à fait la même voix, mais on entend déjà les prémices de ce qu'elle allait devenir. Écoutons-la.
I send a letter to my mommy on the way. I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue.
Tisket. Une vieille ronde enfantine qu'elle a, elle a utilisée avec tout le swing qu'on lui connaît. Elle était avec l'orchestre de Chick Webb. Chick Webb était un batteur. Et peu de temps après, Chick Webb décède et l'orchestre va devenir l'orchestre d'Ella Fitzgerald, qu'elle va conduire dans tous les sens du terme, à la fois musicalement et en tant qu'administratrice de l'orchestre. Et elle va multiplier les collaborations avec des musiciens de jazz comme Dizzy Gillespie, Duke Ellington, Count Basie, les Ink Spots aussi, ce groupe vocal de Bill Kenny.
Avant d'écouter Gilles, effectivement, ce groupe, les Ink Spots, moi je voudrais dire deux choses sur elle-là. C'est une chanteuse qui chante juste. Et c'est quand même souvent un peu rare dans le jazz de cette époque où on faisait plutôt, on aimait bien le gospel, c'est-à-dire avec des voix qui sont traînantes, des voix qui sont un petit peu graves. Et la deuxième chose sur cet enregistrement qu'on vient d'écouter où elle a 20 ans, moi je lui trouve la même voix, les mêmes harmoniques dans la voix que quand elle en avait le double, que quand elle avait 40 ans. Donc écoutons tout de suite les Ink Spots.
Out on the plains, down in Santa Fe, I met a cowboy riding the range one day. And as he jogged along, I heard him singing a most peculiar cowboy song. It was a ditty he learned in the city. Come a ta ay come a ta yippee.
Get along.
Cow boogie. Un thème de 1943 enregistré avec les Ink Spots. Elle va enregistrer 7 chansons avec ce groupe vocal et par 4 fois, ces enregistrements seront classés à la première place des charts américaines. Mais bon, malheureusement, avec le déclin du swing et l'essor du bebop, le style d'Ella va, malheureusement, plutôt heureusement, va évoluer. Alors qu'elle chante dans l'orchestre de Dizzy Gillespie, lui vient l'idée d'imiter avec sa voix les solos de trompette, et elle réinvente ainsi le scat, une technique d'improvisation dont on a déjà parlé, qui avait été popularisée par Louis Armstrong, et où des onomatopées sont utilisées plutôt que des paroles. On va écouter un extrait de Flying Home, qu'elle chante en 1945 avec Vic Sean and his orchestra. Non seulement elle scatte, mais elle improvise. Et elle improvise avec une créativité assez extraordinaire. Elle est la seule à savoir faire ça.
Et comment vous traduiriez scat ?
Ça ne se traduit pas, scat. Ce sont des onomatopées. Donc,
Parce que c'est un génie pour ça.
C'est pas un génie parce qu'elle scatte.
Non, mais il y a qu'elle qui sait le faire comme ça, je crois.
Pas tout à fait, parce que sa grande rivale, Sarah Vaughan, scatte également, mais pas de la même façon. Et puis Louis Armstrong scatte, et puis d'autres chanteurs, dont on ne parlera pas puisque l'émission est consacrée à des chanteuses, scatte également. Non, son génie vient de ce qu'elle soit capable d'adapter à la fois cette créativité qu'elle a en elle à l'improvisation, et puis cette possibilité qu'elle a de scatter pendant des dizaines et des dizaines de minutes sans s'interrompre. Elle fait faire ce qu'on vient d'entendre là, elle va le renouveler à plusieurs reprises, et on se rappelle le mémorable enregistrement à Berlin en 1960. Elle a un trou de mémoire et elle part sur... je crois que c'était Oh Lady Be Good ou How High the Moon. Elle a un trou de mémoire, elle invente les paroles. Non, c'était Mac the Knife. C'est assez extraordinaire. Elle mêle des mots intelligibles et elle scatte aux onomatopées.
Oui, c'est ça. C'est quand même une sorte de génie d'arriver à trouver.
Absolument. C'est un véritable génie. Oui. Mais elle est aidée en ça par des musiciens qu'elle sait choisir.
Oui, chevronné.
On you, sweetie pie, all the day and night time.
Très beau thème de George Gershwin, I've Got a Crush on You. C'est un enregistrement qui date de 1959. C'est l'époque où Ella Fitzgerald passe chez Verve. Et elle va enregistrer toute une série d'hommages aux grands compositeurs américains que sont Cole Porter, Richard Rodgers et Lawrence Hart, ou George Gershwin et Ira Gershwin, Duke Ellington, Irving Berlin, Harold Arlen, Jerome Kern et Johnny Mercer. Ce sont des albums qui remporteront un très très beau succès. Ce sont des moments assez extraordinaires. On peut peut-être regretter, mais ça c'est mon avis, les arrangements du chef d'orchestre Nelson Riddle, qui travaillait avec Frank Sinatra par ailleurs. Je trouve un petit peu sirupeux, mais...
Le style de Sinatra.
C'est le style.
Ah bah oui, ça, Sinatra.
Voilà, donc dernier enregistrement en 1989, dernière représentation en 93, et donc elle décède en 96.
Oui, elle était atteinte d'un diabète, je crois.
Elle est morte d'une crise cardiaque.
Elle est morte d'une crise cardiaque. Le gros problème, je ne sais pas, peut-être que Patrick va nous éclairer là-dessus, mais son diabète a été... la baisse des qualités de sa voix était concomitante à l'évolution de son diabète. Elle a fini par être amputée des deux jambes, d'ailleurs, pour ça. Les derniers enregistrements qu'elle a fait notamment avec le guitariste Joe Pass, moi personnellement me touche beaucoup parce que on ne retrouve plus du tout la voix de la Fitzgerald, on ne retrouve plus cette pureté, cette justesse, c'est presque pathétique.
Oui, elle a eu quand même des phases, on ne va pas rentrer dans des problèmes médicaux, mais il y a eu des phases où elle a grossi, elle a un petit peu maigri, c'est le problème du diabète avec la prise de poids, et les cordes vocales n'aiment pas trop les variations de prise de poids. Bon, donc tous nos adieux à Ella, qui était une grande chanteuse. On pourrait parler par exemple de Billie Holiday. Gilles, alors, Billie Holiday.
Billie Holiday, elle aurait eu 100 ans cette année. Elle est née en 1915. La vie de Billie Holiday, je pense que tout le monde la connaît, on ne va pas revenir dessus. C'est une vie plutôt tragique.
Ah oui.
Dès sa plus tendre enfance. Ce qu'on retient surtout de Billie Holiday, c'est son génie de l'interprétation. Elle était capable de s'approprier d'une manière assez extraordinaire n'importe quelle chanson, n'importe quelle chansonnette, et faire swinguer les mots. Elle n'avait pas un registre à la Ella Fitzgerald, elle avait une toute petite tessiture, et elle avait une voix rocailleuse, mais elle chantait juste. Peut-être pas à la fin de sa vie, malheureusement, mais elle chantait juste, en tout cas. Elle tenait ça certainement, tout cela, son sens du rythme. Elle tenait ça de son père, Clarence Holiday, qui était un jeune guitariste qui a fait ses clashs chez Fletcher Anderson, dont on aura l'occasion de parler dans la prochaine émission.
On écoute Billie Holiday.
Needn't even think of trying to be a mighty social lion, sipping tea if you'll be my mother's son-in-law. Ain't got the least desire to set the world on fire, just wish you'd make it proper to call my old man Papa. You don't have to sing like that, so you can tell the world I'm set.
Billie Holiday a 18 ans lorsqu'elle enregistre son premier disque avec l'orchestre de Benny Goodman, Your Mother's Sons-in-Law. Elle aura un succès tout de suite avec ce disque.
Elle était fort jolie aussi.
Elle était très jolie, évidemment. Elle plaisait beaucoup à tous les hommes qui l'entouraient, surtout tous les musiciens. D'ailleurs, elle va rencontrer beaucoup d'hommes dans sa vie, mais... un en particulier qui était son ami qui était Lester Young, qui était le saxophoniste de l'orchestre de Cambesi. Et Lester Young, qui parlait par onomatopée ou par pseudonyme, l'avait baptisé Lady Day.
Oui.
Et elle l'avait baptisé Prez, pour President. On ne saura jamais pourquoi exactement, mais bon, c'était comme ça. Lester Young, Prez et Lady Day, Billie Holiday. Et elle va chanter, elle va faire ses classes toute seule, hein, elle va apprendre à chanter seule, mais elle a ça
son
en elle.
Son père quand même...
Son père l'a très peu aidé puisqu'il ne s'en est pas occupé. À 17 ans, il est parti. Non, elle s'est débrouillée toute seule, la pauvre Billie Holiday.
Mais c'était l'atavisme.
Je pense que c'était l'atavisme, oui, tout à fait.
Écoutons Billie Holiday.
It's like reaching for the moon. Ça date de 1935. Elle est avec l'orchestre de Teddy Wilson, le pianiste Teddy Wilson, un très très bon pianiste. Et beaucoup de fans de la chanteuse considèrent que sa collaboration avec Teddy Wilson est son meilleur travail. C'est ce que beaucoup. Moi, je le pense également. C'est ce qu'elle a fait de mieux. On entendra plus tard les derniers enregistrements de sa vie. C'est tout à fait autre chose. On ne ressent pas le même sens du swing, le même sens du rythme. C'est autre chose. C'est une autre Billie Holiday, une évolution au cours des années.
On écoute Strange Fruit, un enregistrement qui avait été refusé par la marque Columbia. Je pense que Gilles, on en dira deux mots après avoir écouté.
On est en 1939.
Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees.
Strange fruit, avec cette chanson que Billie Holiday a prétendument composée. En fait, elle ne l'a pas composée. C'est une espèce de d'hymne anti-raciste, anti-Ku Klux Klan. Dans le sud des États-Unis, les Strange Fruit, ce sont les noirs pendus aux arbres, aux peupliers. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est avec cette chanson qu'elle va se faire connaître du monde entier. Et son succès ne se démentira pratiquement plus jamais. Jusqu'à la fin de ses jours.
On trouve les inflexions particulières de Billie Holiday dans cette chanson, un petit peu contrairement aux autres, avec le nain, cette vocalise un petit peu particulière, et on remarquera par rapport aux autres morceaux qu'on a entendus précédemment, une voix qui est déjà un petit peu plus grasse, un petit peu graillonnante, moins aiguë, moins aérienne. Je pense que c'est ça qui a fait son succès. On est à une époque où on aime bien ces voix de chanteurs, notamment les chanteurs masculins, oui, les chanteurs masculins qui faisaient, qui nous berçaient avec une nostalgie. On est dans les années 39, on est déjà entre deux guerres, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Voilà donc Billie Holiday en train de nous donner, pour moi, le meilleur d'elle-même à ce moment.
Elle a 24 ans, c'est assez formidable. On va retrouver un petit peu cette voix avec Loverman qu'elle enregistrera en 1944, je crois. On l'écoute.
Grand succès. Les inflexions particulières de Billie Holiday. Oh, what I've been missing.
love a man, oh where can you be?
C'était formidable parce que Billie Holiday était capable d'interpréter à sa manière une mélodie, un thème. Elle en changeait les notes, elle en changeait le rythme, et elle en faisait une autre chanson, une autre musique. Elle va enregistrer d'autres succès pour la maison de disques Decca, et notamment une série de duos avec Louis Armstrong, et puis des standards comme Don't Explain ou Good Morning Heartache. Elle va aussi composer un grand succès, God Bless the Child, qu'on n'écoutera pas aujourd'hui, mais peut-être une autre occasion. Et c'est vrai que si les années 40 sont ses meilleures années du point de vue artistique...
Oui, du point de vue personnel,
c'est pas extraordinaire.
Oui, elle ira en prison 8 mois en 1947 parce qu'elle consomme de l'alcool, de la marijuana... Et en fait, elle est tout à fait dépendante des drogues dures comme l'opium et l'héroïne. Ça, c'est terrible. Hein.
C'est terrible. Ça ne va pas l'empêcher d'aller au cinéma, à Hollywood. Elle va tourner avec Louis Armstrong, d'ailleurs, dans un film qui s'appelait New Orleans, où elle tient le rôle d'une domestique, évidemment, noire. qui s'est chantée. On l'écoute, d'ailleurs, dans un extrait du film.
Do you know what it means to miss New Orleans and miss it each night and day? I know I'm not wrong. The feeling's getting stronger the longer I stay away. Miss the moss-covered vines, the tall sugar pines, where mockingbirds used to sing.
C'est la trompette du grand Louis Armstrong qu'on entend derrière.
And I'd like to see the lazy Mississippi a hurrying to spring. The mardi.
La vie sentimentale de Billie Holiday n'est pas drôle non plus.
Non, elle est battue par ses différents maris, ses différents amants. Vraiment. C'est terrible d'avoir une vie de star d'un côté et de l'autre d'être extrêmement malheureuse.
Absolument. D'ailleurs, elle interprétera des chansons qui vont tout à fait dans le sens. The Man I Love de Gershwin et puis My Man, qu'elle reprend d'une chanson française, Mon Homme, où elle raconte finalement sa vie sentimentale qui est vraiment très... qui est terrible.
Oui.
Puis sa santé va décliner. Sa santé décline, j'imagine, à cause de l'alcool, à cause de la drogue, à cause de son vécu. Et elle va continuer à enregistrer, à se produire à travers le monde jusqu'à la fin de sa vie. Elle va même être à Paris à deux reprises, une fois à l'Olympia en 1958 pour un concert qu'elle assure à peine. Elle est exténuée. Sa tournée va prendre l'eau.
D'ailleurs, Françoise Sagan écrit pour ce...
C'est vrai.
Quand elle était passée là, c'était Billie Holiday et ce n'était pas elle. Elle avait maigri, elle avait vieilli. Sur ses bras se rapprochaient les traces de piqûres. Elle chantait les yeux baissés, elle sautait un couplet, elle se tenait au piano comme un bastingage par une humeur démontée. Les gens qui étaient là l'applaudirent fréquemment, ce qui lui fit jeter vers eux un regard à la fois ironique, apitoyé, un regard féroce en fait, à son propre égard. Pourtant, le docteur Hollande qui l'examine décèle une embellie.
Oui, Françoise Sagan savait de quoi elle parlait.
Oui, parce qu'elle-même était...
Absolument. Oui. Mais elle va faire quand même un triomphe dans ce petit club, le Mars Club, du côté des Champs-Élysées. On va retrouver les célébrités de l'époque, Gainsbourg, Juliette Gréco, et puis évidemment, Françoise Sagan. On va écouter un enregistrement qui est assez terrible parce qu'il va nous faire entendre la voix de Billie Holiday sans orchestre lors d'une séance d'enregistrement qui est pour un album assez merveilleux qui s'était Lady in Satin en 1958. La voix de Billie Holiday n'est plus celle de ses 17 ans, évidemment, mais elle n'est plus celle de ses années précédentes non plus. On l'écoute.
So I walk a little too fast, and I drive a little too fast, and I'm reckless, it's true, but what else can you do at the end of a love affair? No good. At the end of a love affair. I don't know it. Now, please try to play as much more as you can and loud as you can. I don't know the tune.
Billie Holiday nous dit là, lors de son enregistrement, qu'elle ne connaît pas elle connaît pas suffisamment le thème. Elle demande à l'orchestre de jouer plus fort et de manière plus percutante. C'est assez pathétique quand même d'entendre cette voix. D'une femme qui n'a que 44 ans.
Oui, mais qui est très malade.
Elle est sans souffle, elle est presque sans voix, mais malgré tout, si on écoute jusqu'au bout l'enregistrement, dans sa totalité, on s'aperçoit qu'elle arrive à ridiculiser le prétentieux échafaudage de violon et de chœur qui est dressé derrière elle. Elle utilise un orchestre de studio qui n'est pas un orchestre de pointure, comme on dit, dans le jazz. Mais bon, elle va être hospitalisée, Christiane, peu de temps après, en 1959.
Oui, c'est ça. On va d'ailleurs lui trouver, en plus de sa cirrhose, une insuffisance rénale, un souffle au cœur. Et en plus, même elle continue à se droguer sur son lit d'hôpital. C'est quelque chose...
À telle enseigne que des policiers la gardent.
Oui.
Alors qu'elle est en train de mourir.
C'est ça. En fait, on se dit qu'elle a préféré mourir que d'aller, que d'aller en prison, parce que c'était ça qui l'attendait si elle ne mourait pas. Donc quelque chose d'assez triste, vraiment, une vie tellement remplie, parce que c'était une très grande artiste, mais aussi une vie tragique, on peut dire.
Absolument,
effectivement.
Oui. Une vie tragique qui se ressent totalement dans le génie de sa voix, dans le génie de son interprétation.
Oui, exactement.
Je souhaite, pour agrémenter un petit peu ce débat qui est un petit peu triste sur cette fin d'émission, nous allons écouter Loverman, qui a fait quand même un grand succès, qui peut être joué d'une façon un petit peu plus sympathique, un petit peu moins... Mais enfin, Loverman, c'est quand même Billie Holiday. Nous écoutons à nouveau ce célèbre standard.
I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing.
Chers amis auditeurs, le mois prochain, nous évoquerons les génies du Big Band. Et pour cela, nous rendrons hommage à Fletcher Henderson, à Duke Ellington, deux pianistes moyens mais remarquables chefs d'orchestre qui auront incarné la révolution dans l'art d'arranger, d'orchestrer et de conduire les grandes formations de musique de jazz. En attendant, si vous voulez réécouter cette émission, veuillez nous rejoindre sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci Gilles Secaz.
Merci Christiane Blin.
Merci Christiane Blin.
Heavenly dream. I go to bed with a prayer.